VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 11h en temps universel. Un groupe armé centrafricain issu de l'ex-rébellion Séléka a assassiné en décembre 32 civils dans une localité du centre du pays, a dénoncé aujourd'hui l'Organisation de défense des droits de l'homme, Human Rights Watch. Ces exécutions sont des crimes de guerre flagrants commis par des combattants de l'UPC qui se sentent libres de tuer à volonté, accuse Human Rights Watch. Ce groupe commet des meurtres sans crainte de punition, malgré la présence de forces de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSCA, ajoute l'organisation. Les efforts pour relancer des pourparlers de sortie de crise au Burundi semblaient aujourd'hui dans une impasse totale, le gouvernement refusant de discuter avec l'opposition et ouvrant même la voie à une réforme de la Constitution. Le médiateur régional dans cette crise, l'ex-président tanzanien Benjamin Mkapa, avait invité le gouvernement du Burundi et son opposition à venir discuter à Arusha, en Tanzanie, des questions de fond qui alimentent depuis près de 2 ans la crise politique majeure dans ce petit pays des Grands Lacs. Karine Kaneza, porte-parole du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi, dénonce une obstruction à la paix de la part de Bujumbura.
Refuser de participer à un processus qui aurait pu être une tentative de résolution de cette crise montre l'ampleur du radicalisme du régime de Bujumbura et de son refus de participer dans tout processus pacifique de résolution de la crise. Le régime de Bujumbura reste cohérent dans les prétextes qu'il avance. Rappelons-nous quand même que c'est le même régime qui a menacé en 2015 de tirer sur 5000 hommes qui devaient être envoyés par l'Union africaine comme force de protection du citoyen burundais. C'est le même régime qui, depuis le début de la crise, a avancé des prétextes innombrables sur la participation, sur la non-participation de tel ou tel individu, de tel ou tel pays, que ce soit des pays occidentaux, que ce soit des pays de la région. Donc, rien de surprenant. C'est un prétexte de plus dans la panoplie d'excuses qu'ils ont à leur disposition.
Karine Kaneza à Washington. Cette crise, la crise burundaise qui a fait plus de 500 000 morts et poussé plus de 300 000 Burundais à l'exil, avait été déclenchée par la candidature controversée du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat en avril 2015. Ce dernier avait été réélu en juillet de la même année au terme d'un scrutin boycotté par l'opposition.
VOA Afrique en direct de Washington.
Au Bénin, la décision de suppression des visas d'entrée et de séjour au profit des ressortissants de 30 pays africains prise par le président Patrice Talon en août 2016 pendant une visite au Rwanda est finalement rentrée en vigueur. Adoptée en Conseil des ministres en octobre dernier, la mesure est désormais effective. Pour en parler, John Lydon, adjoint à Pretoria, David Zoumenou, Dosso de l'Institut d'études et de la sécurité.
Je pense que c'est une bonne décision qui va dans le sens de mettre en œuvre ce que le président avait annoncé, de rendre l'articulation des personnes et des biens en Afrique sans visa, moins houleuse pour les citoyens africains, en fait, penser à amoindrir et à réduire des obstacles au mouvement des citoyens sur le continent. Donc je pense que cette décision du Bénin, en plus de renforcer déjà des acquis au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, vient d'ouvrir une porte vers une parfaite intégration du continent africain.
Qu'est-ce qu'une telle décision rapporte au pays?
Une telle décision aura d'abord pour première conséquence l'ouverture du pays au monde extérieur. Le secteur du tourisme étant resté un secteur qui n'attire pas pour souvent du monde faute de connaissances du pays, je pense que les premières retombées ne peuvent être qu'économiques pour le pays. En plus, cela facilite la circulation des capitaux, des individus qui veulent investir ou qui cherchent des opportunités d'affaires, qui veulent explorer les opportunités dans tel ou tel pays, trouveront la tâche beaucoup plus facile aujourd'hui que les visas sont supprimés et le pays pourrait en bénéficier aussi bien socialement, politiquement qu'économiquement.
L'Union africaine veut qu'on supprime les barrières. Est-ce que c'est applicable à l'échelle continentale, cet exemple du Bénin?
Je pense que c'est applicable à l'échelle continentale. Seulement, il y a des défis colossaux auxquels nous devons faire face. Il y a des pays où la xénophobie continue toujours d'être une arme entre les mains des politiciens pour se débarrasser de leurs responsabilités dans l'échec sociale ou économique de leurs citoyens, des chèques, à pouvoir trouver du boulot, à créer des emplois, à pouvoir aider l'économie à décoller. Et de ce fait, jette la responsabilité sur les étrangers. Et il y a des pays qui dépendent exclusivement des frais de visa pour renflouer un peu les caisses de l'État. Donc, ils pensent un peu à ces fêtes-là. Et il faut un débat approfondi sur la question pour pouvoir vraiment donner vie à ce type idéal qui va vraiment renforcer la conception du panafricanisme et envoyer un message aux citoyens que l'Union africaine, en tout cas, parle en ce moment pour eux, s'occupe un peu de leurs problèmes et offre des opportunités pour eux et non pour les chefs d'État qui se réunissent à Addis Abeba et décident de ce qui va dans leurs propres intérêts.
David Zoumenou Dossou de l'Institut d'études et de la sécurité à Pretoria. Le président nigérien Muhammadu Buhari, en séjour à Londres depuis près d'un mois pour des examens médicaux, est en bonne santé. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui le président du Sénat après lui avoir rendu visite, tentant de dissiper les rumeurs sur la santé du chef de l'État nigérien. Le président Buhari, âgé de 74 ans, a quitté le Nigeria le 19 janvier pour un contrôle de santé à l'occasion de ses congés. Alors que son séjour était initialement prévu pour une dizaine de jours, son cabinet a annoncé le 6 février qu'il devait le prolonger sur recommandation de ses médecins. Le gouvernement a dû démentir à plusieurs reprises des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux et dans les médias selon lesquels il serait gravement malade. Agriculture, l'invasion d'une chenille légionnaire vorace venue d'Amérique a endommagé les cultures céréalières de plusieurs pays africains et fait craindre maintenant des pénuries alimentaires. La réunion d'urgence de 3 jours sous l'égide de l'ONU s'est clôturée mercredi à Harare. Dr. Mars Kenis, spécialiste des espèces invasives au Centre international pour l'agriculture et les biosciences, a esquissé quelques solutions.
On peut développer des méthodes de lutte intégrée qui soient le mieux adaptées possible aux conditions rurales en Afrique. Ce que je veux dire principalement dans le développement de méthodes de lutte intégrée, c'est donc d'essayer d'éviter le plus possible l'utilisation des pesticides, parce que là, malgré tout, avec les pesticides, normalement ça marche, mais on ne va pas conseiller l'utilisation abusive de pesticides. Il y a toujours des méthodes intégrées en mélangeant donc une utilisation très modérée de pesticides avec des biopesticides, avec des méthodes de monitoring, des systèmes par exemple de mélange de cultures et tout ça pour pouvoir lutter donc plus efficacement et de façon plus écologique contre cet insecte.
Docteur Mark Kenis, 6h07 à Washington.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La justice française a annoncé aujourd'hui qu'elle allait poursuivre son enquête sur le candidat de droite à la présidentielle, François Fillon, soupçonné d'emploi fictif au bénéfice de son épouse. Cette affaire a valu à François Fillon, favori des sondages jusqu'au début de l'année, de chuter dans les intentions de vote. Les dernières enquêtes le donnent désormais derrière la candidate d'extrême droite Marine Le Pen, le centriste Emmanuel Macron, ce qui l'empêcherait d'accéder au second tour du scrutin à l'élection présidentielle en France. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, a appelé aujourd'hui à Moscou à multiplier les efforts en vue d'un règlement politique en Syrie, alors que de nouvelles discussions sur le conflit syrien doivent s'ouvrir à Astana. Il a réitéré le soutien de l'ONU aux négociations sur la Syrie, parrainées par la Russie, l'Iran et la Turquie. Ces discussions suivent un premier round de négociations le mois dernier qui s'était achevé sans avancée politique majeure. Les nouvelles négociations à Astana sont considérées comme un prélude à la réunion de Genève le 23 février sous les auspices de l'ONU. Et sur le terrain en Syrie même, quelques 24 civils ont été tués par des raids et des bombardements sur la ville d'Al-Bab, un bastion du groupe État islamique dans le nord de la Syrie, a annoncé aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. L'OSDH qui impute la responsabilité de ces bombardements aux forces turques qui assiègent partiellement la ville. L'armée turque a affirmé avoir tué 15 terroristes de l'État islamique en menant des frappes aériennes et des bombardements selon l'agence Anadolu. Et puis Rex Tillerson est à Bonn en Allemagne aujourd'hui pour son premier voyage à l'étranger en tant que chef de la diplomatie des États-Unis à l'occasion d'une réunion des pays du G20. Et il va s'entretenir dans la journée avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Dans le cadre de la préparation du sommet du G20 à Hambourg début juillet, le secrétaire d'État américain va participer également à des sessions de discussion sur le nouvel ordre mondial, la coopération avec les pays africains et la prévention des conflits. Jean-Roger Bion à ce micro. Le prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francisque. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.